Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux acteurs et actrices engagés dans les questions de l'écologie, de solidarité, de culture à Marseille, sa région. Nous sommes en direct ce mercredi 5 juillet 2023 de 19h à 20h et l'émission sera diffusée demain de 9h à 10h. Le replay lui sera disponible sur le site de Radio Galère vendredi matin. Je suis Chloé, je suis accompagnée ce soir de Marin qui est en régie. Et cette émission s'inscrit dans un projet que nous avons lancé avec Marin à l'antenne le 21 mars dernier, comme vous le savez, la forêt des possibles qui fait émerger en pays marseillais un monde foisonnant, interdépendant et résilient qui vous invite à prendre votre juste place, alors de manière bénévole ou salariée, en fonction de vos aspirations, de vos talents, de vos désirs, de vos compétences et de votre curiosité. Et en fonction des différents chantiers que chacun de nos invités propose chaque mercredi à l'antenne, vous pouvez les intégrer. Donc vous pouvez retrouver ces structures et leurs contacts sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Écoforum Radio Galère. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Marine Dehas, coordinatrice de l'école Être à Marseille, école de la transition écologique. Bonsoir Marine et bienvenue à l'antenne.
Bonsoir.
On est ravis de te recevoir ce soir sur notre antenne. Alors l'école Être de Marseille a ouvert ses portes il y a quelques mois, tu nous en diras plus tout à l'heure, et elle fait partie du réseau des écoles de la transition écologique. Être donc est une association qui fédère aujourd'hui 19 écoles Être au niveau national et les accompagne dans leur développement. Les écoles Être sont donc des organismes de formation qui sensibilisent et forment les jeunes éloignés de l'emploi, qui sont âgés de 16 à 25 ans, mais tu es au métier de la transition écologique, on reviendra dessus. Et donc tu as en octobre dernier monté cette école Être à Marseille avec le paysan urbain. Nous avons d'ailleurs reçu à l'antenne le 18 mai dernier. Eux accompagnent le retour à l'emploi autour des jardins urbains et de la production de jeunes pousses sous terre low-tech dans le 13e arrondissement. Et ils ont à cœur de sensibiliser à l'agriculture urbaine. Voilà, donc tout un programme ce soir. Alors avant de se lancer peut-être dans le cœur de cette émission, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs auditrices qui ne te connaissent pas, te présenter peut-être ton parcours et ce qui t'a donné envie de monter ce projet à Marseille?
Oui, bah, merci de me recevoir ce soir. Donc moi je m'appelle Marine, je suis à Marseille depuis à peu près 4-5 ans. Avant j'ai un parcours dans les grandes lignes qui a été plutôt marqué par l'engagement dans la solidarité internationale et dans l'accès au droit. J'ai travaillé plusieurs années dans une grande et vieille asso nationale qui s'appelle la CIMAD, qui fait de l'accès au droit pour les personnes exilées. Et quand je suis arrivée à Marseille, j'ai pris le temps de m'engager sur un projet qui me tenait très à cœur, qui s'appelle Seuil, qui existe toujours. Et je suis partie accompagner un jeune en difficulté, un jeune de 17 ans qui vivait à la rue, en marche de rupture. Les marches de rupture, c'est vraiment des marches au long cours pendant lesquelles on va marcher avec un jeune en binôme sur des sentiers de randonnée. Et l'idée, c'est de vraiment mettre de la distance avec le quotidien et avec les soucis de ce jeune. Et donc, j'ai marché pendant 3 mois, donc 1600 kilomètres avec, avec un jeune qui s'appelle Maël. Et voilà, donc cette arrivée, un peu ce changement de vie quand je suis arrivée à Marseille avec ce projet très fort qui m'a donné aussi envie de travailler avec des jeunes dans cette période de leur vie où en fait tout est encore possible. Mmh. Et en même temps des jeunes de 16, 17 ans qui ont déjà vécu des choses très difficiles. Et à Marseille, je me suis fait mon trou. Pas mal d'engagements aussi bénévoles. J'ai participé à la création de l'antenne bénévole d'une association qui s'appelle Terre de Liens, qui vise à la préservation du foncier agricole. On rachète des terres avec de l'épargne citoyenne pour installer des agriculteurs, des agricultrices qui vont cultiver la terre de manière agroécologique. Voilà, tout ça, voilà, la multiplication aussi des engagements m'a amenée à rencontrer le réseau des écoles Être, mmh. qui justement cherchait une personne à Marseille, à la fois pour venir travailler dans un lieu qu'ils animent en collectif avec d'autres structures de l'ESS, qui est le Transforama, qui est basé à la friche La Belle de Mai, et puis aussi pour travailler à comment une école être marseillaise pourrait concrètement voir le jour dans les prochaines années. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée sur ce projet.
Donc, allier l'aspect social et l'écologie, c'est vrai que ça a été un projet du coup qui a permis d'allier les deux, en fait.
Exactement. Effectivement, moi, j'avais un parcours qui était beaucoup plus marqué par un engagement sur la question des personnes exilées et sur l'accès aux droits. Et j'avais, de par mes engagements personnels, bénévoles, vraiment envie que cette question de la mobilisation pour une transition écologique, elle fasse aussi partie de mon quotidien et de mon travail. Et du coup, quand j'ai découvert le projet des écolettres, ça a été vraiment un coup de cœur aussi, effectivement, sur cette alliance entre... Enfin, pour moi, vraiment, la transition écologique et sociale. Mmh. On oublie social, mais des fois même, on le comprend. Des fois, on le squeeze complètement. Mais pour moi, les deux sont intimement liés. Mmh. Voilà.
Et donc, cette école Être fait partie d'un réseau. J'imagine que chaque ville où elle se trouve est incarnée. À Marseille, comment tu peux nous décrire cette école Être pour les personnes qui ne la connaissent pas, en quelques mots? L'école Être à Marseille, qu'est-ce qu'elle incarne, comment on peut l'imaginer?
Alors, l'école Être de Marseille, comme tu l'as dit en introduction, elle est portée par une structure qui s'appelle le Paysan Urbain. Mmh. Et du coup, on a travaillé avec toutes les équipes de Paysan Urbain, justement pour définir un peu les axes sur lesquels une école Être marseillaise aurait envie de s'impliquer, sur quel domaine de la transition écologique elle voudrait faire découvrir des métiers aux jeunes. Et évidemment, on est arrivé très rapidement à la question du vivant, du végétal, c'est-à-dire la place de la nature en ville. C'est une question qui est fondamentale dans le cadre du réchauffement climatique, mais aussi du lien des urbains avec la nature. Mmh. Et surtout, c'est une question qui permet de toucher à beaucoup de choses. Donc, ça nous semblait très intéressant. Ça permet de toucher à la question de la biodiversité, des espaces de nature et de bien-être aussi en ville. Ça permet de toucher à la question de l'alimentation et de la production agricole dans des espaces urbains ou périurbains. Et puis la question, de manière plus générale, du soin aux vivants. Voilà. Et on a été accompagnés par le réseau des écoles Être depuis septembre dernier pour devenir cette école Être Marseille qu'on est aujourd'hui. Donc, on a fait 9 mois d'incubation. C'est le temps de gestation pour que le projet puisse voir le jour. Et aujourd'hui, on a déjà monté 2 parcours. On y reviendra sûrement. Oui. Où on a pu accueillir les premiers jeunes de l'école Être. Et ce projet, il demande qu'à grandir et à accueillir plus de jeunes.
Plus de jeunes, ouais. Et pourquoi donc avoir fait ce choix de s'allier, on va dire, avec le Paysan Urbain? Eux, ils sont localisés dans le 13e. Pourquoi ce choix sur ce territoire qui est assez large à Marseille? Pourquoi cet endroit?
Alors, pour plein de raisons. La première, c'est que effectivement, le Paysan Urbain, dans toute son approche, c'est un chantier d'insertion, mais qui intervient aussi par ce qu'on appelle le pôle pédagogie sur des projets de sensibilisation à l'environnement, mais qui s'apparente dans certains projets à de la médiation sociale par le vecteur du vivant et du jardin. En fait, l'approche pédagogique qui est fondamentale dans les écolettres, c'est vraiment une approche par la pratique. Mmh. On découvre un métier, on découvre une thématique en pratiquant, en utilisant ses mains, plutôt qu'en étant dans une dimension descendante dans une salle de classe. Et ça, c'est vraiment une approche qui est transversale et qui est très présente aux paysans urbains. Tout le monde va monter en compétences sur du jardin, sur de la production végétale, sur du bois, par exemple. Et donc, ça faisait vraiment écho à l'écolettre. Le deuxième point, c'est que ils étaient très motivés. Donc ça, c'est super chouette de trouver une structure qui a envie de porter le projet. Et puis, ils avaient aussi approché le réseau en disant qu'ils étaient intéressés par le projet. Et puis, la troisième chose, c'est que le paysan urbain, ils sont basés donc à Saint-Jérôme, qui est quand même à la croisée de pas mal de quartiers prioritaires de la ville. Mmh. Donc, c'est aussi un quartier qui draine aussi beaucoup de jeunes qui pourraient potentiellement bénéficier de l'écolettre. Et c'est un lieu qui est un peu magique pour ceux et celles qui...
Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu? Parce que moi, par exemple, je ne le connais pas.
Ouais. Bah, du coup, le paysan urbain, en fait, est basé au cloître. Mm-hmm. Donc, c'est un ancien cloître où il y a plein de structures qui sont basées de la formation de l'économie sociale et solidaire. Et nous, on est à l'extérieur du cloître. Donc nous, on occupe un peu les espaces extérieurs du cloître. Donc on est un peu en retrait, un peu caché. Et du coup, c'est un endroit où il y a beaucoup de végétal, en fait. Donc il y a nos serres bioclimatiques où on fait pousser les micro-pousses. Il y a un espace qu'on appelle la pinède où il y a aussi la pépinière de plantes locales. Donc il y a des plantes partout. Il y a, en fait, si on s'arrête, on est un peu en dehors de la ville, alors qu'on est quand même en plein cœur du 13e arrondissement.
C'est un peu la magie de Marseille, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça.
À certains endroits, on est dans une immense ville, mais on peut être à la fois dans des endroits assez incroyables comme celui-là.
Voilà. Et petite anecdote, il y a un des jeunes qui a fait la formation là en juin, le parcours de juin, qui est allé voir le cofondateur du paysan urbain, qui d'ailleurs partait, c'était son dernier jour. Il part vers d'autres aventures et qui allait lui dire merci d'avoir créé ce lieu en plein cœur du 13e arrondissement, parce que moi j'habite à 10 minutes à pied et je ne savais pas qu'il y avait des lieux comme ça à côté de chez moi alors que j'y vis depuis toujours. Ouais. Et voilà, ça c'est aussi pour ça que ce lieu existe, pour être un petit poumon vert aussi au sein de ce quartier.
Découvrir des lieux qui nous appartiennent finalement, qui font partie de notre territoire mais qu'on ne connaît pas assez. Ouais. Voilà. Donc les écolettres... À Marseille aussi, puisque vous êtes partie de ce constat qu'il est vraiment temps aujourd'hui de créer de l'emploi autour de la transition écologique, des métiers qui ont du sens pour ces jeunes, pour la société, finalement pour la planète. Est-ce que vous êtes partie aussi d'un constat peut-être qui existe autour des systèmes, des écoles classiques qui répondent peut-être plus ou pas à tous les besoins de ces jeunes, puisque beaucoup de jeunes en fait le quittent assez jeunes, en fait à 16 ans, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont plus en phase ou...
Ouais.
Qui ont envie d'autre chose.
Voire même avant, malheureusement.
Ouais.
Effectivement, le constat de base des écolettres, c'est le nombre hallucinant de jeunes qui décrochent du système scolaire chaque année. On parle de 100 000 jeunes en France.
C'est énorme.
On est sur le territoire marseillais, en tout cas, les estimations que j'ai eues, moi, c'est autour de 5 000 jeunes par an. Et on a un taux de chômage des 15-24 ans, parce que c'est ça la tranche, qui est plus élevée de 5 points à Marseille que la moyenne nationale. Donc il y a des vrais enjeux sur cette question. Et effectivement, le fait de dire aujourd'hui le système éducatif classique, il y a plein de choses très intéressantes qui se développent. Donc, ce n'est pas du tout pour le dénigrer, mais plutôt de dire ces jeunes qui n'ont pas trouvé leur place dans ce système éducatif, on va peut-être aussi leur proposer quelque chose d'autre et quelque chose qui soit basé sur beaucoup plus de pratiques d'extérieur et puis de travailler aussi sur des groupes de petite taille.
Oui, c'est ça. Il y a un certain nombre de principes pédagogiques de l'école aide que je trouve super intéressantes. On parlait tout à l'heure, notamment l'apprentissage par le faire avec beaucoup d'ateliers, des chantiers collectifs, avec la pratique, la transmission au cours de rencontres aussi, d'échanges avec de professionnels directement sur le terrain, la rencontre avec des professionnels. Et puis, tu me parlais aussi du travail aussi ensemble, la mixité des publics, valoriser aussi ce qu'il y a de bon chez eux, leurs talents, ce qui les anime en fait finalement au-delà peut-être de l'école. Et puis de ce travail sur les savoir-faire aussi, tu m'en parlais en préparant l'émission, avec une charte que vous établissez en début au début de formation en fait, qui peut-être en fait comme un fil conducteur pendant ces 2 semaines où on travaille sur la confiance en soi, sur la tolérance, sur le respect, sur un certain nombre de choses qui paraissent essentielles mais qui sont peut-être pas forcément transmises dans les écoles classiques justement.
Donc les savoir-être et qui justement sont cette charte on leur propose et du coup elle émane du groupe en fait. Donc c'est quelque chose qu'on fait le premier jour et justement ça permet un peu de poser le cadre et que tout le monde soit d'accord, donc tout le monde la signe, à la fois la personne qui va les accompagner pendant les deux semaines, mais aussi tous les jeunes. Et du coup, l'idée, c'est effectivement de dire sur ce premier parcours qui s'appelle la remobilisation, qui dure deux semaines, qui est plutôt de la découverte métier, l'objectif principal, c'est de travailler sur les savoir-être et de raccrocher aussi des jeunes qui parfois sont depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, hors de tout dispositif, de pouvoir les raccrocher à la fois à un rythme, parce que ça, c'est quand même, ça paraît peut-être pas logique, mais en fait, c'est déjà un enjeu énorme pour un jeune qui se lève plus de se lever le matin pendant 2 semaines.
Ouais.
Et puis de les raccrocher aussi à une dynamique collective, donc de travailler sur le groupe. Et la mixité des publics peut favoriser effectivement un groupe où chacun peut apporter sa pierre, où des personnes vont être peut-être plus cérébrales, d'autres plus dans le manuel. Et du coup vont s'entraider aussi là-dessus. Des jeunes de différents quartiers, des jeunes de différents milieux aussi. Peut-être aussi des jeunes porteurs d'un handicap qui n'ont pas trouvé leur place dans d'autres groupes parce que trop grande taille, parce que voilà, il y a plein de raisons. Donc en tout cas, ça, c'est notre ambition, que chacun puisse trouver sa place dans le groupe.
Ta juste place, et c'est vrai que ça rejoint complètement le projet qu'on porte avec Marin à travers la forêt des possibles, de trouver sa juste place. C'est un grand chantier dans une vie et peut-être de commencer ce chantier dès 16 ans, c'est vrai que ça peut paraître hyper inspirant, hyper important. Et comment sont recrutés, on va dire, ces jeunes, comment ils sont sélectionnés? Tu nous parlais donc de cette tranche d'âge qui est assez importante, de la mixité des publics. Est-ce qu'il y a d'autres conditions, on va dire, pour pouvoir intégrer l'école aide?
Non, il n'y a pas de prérequis. Nous, on accueille vraiment tout type de jeunes. Après, on a vraiment, nous, notre ambition en termes d'impact social, c'est aussi d'aller toucher des jeunes qui sont peu diplômés. Mais après, on peut aussi accueillir d'autres types de publics. Peut-être l'important, c'est que c'est le gros travail qu'il faut mener quand on crée une école-être sur ce qu'on appelle le maillage territorial. Donc en fait, tout le travail qu'on va faire avec les acteurs du champ de l'accompagnement social. Et en fait, si on est tout seul, on n'y arrive pas, ça c'est sûr.
Ouais.
Donc on travaille main dans la main avec des acteurs assez connus comme le Pôle emploi ou les missions locales. Enfin, la mission locale, ça c'est très important. Mais on va aussi travailler avec plein d'autres acteurs qui sont vraiment sur le terrain et qui vont soit toucher des jeunes, soit carrément les accompagner et qui n'ont pas forcément cette compétence de les accompagner sur les métiers de la transition écologique. Donc ça peut être des associations de quartier, des clubs de sport, des centres en soutien mental, ça peut être des IME, donc des instituts médico-éducatifs. Voilà, en fait, l'idée, c'est justement de se fermer aucune porte et de travailler avec des médiateurs de quartier, avec beaucoup de structures. Ça, c'est assez important pour nous, pour faire le lien aussi avec...
Avec le quotidien aussi, j'imagine, de ces jeunes.
Le quotidien, mais aussi avec la personne qui les connaît, qui va les accompagner sur le plus long cours, en tout cas sur ces parcours de 2 semaines. Et puis, dans plein d'écoles, c'est pas encore le cas à Marseille, mais je suis sûre que ça arrivera bientôt. En fait, c'est aussi les jeunes qui ont fait les parcours être qui sont les meilleurs ambassadeurs auprès d'autres jeunes de leur quartier, de leur réseau. Et donc, dans plein d'écoles, ça se vérifie. C'est les jeunes qui ont fait les parcours qui vont aider à identifier les futurs jeunes de l'école être.
Et donc, en parlant de ces parcours, plusieurs formations qui sont proposées dans ces écoles. Donc, celui que vous avez développé pour le moment, c'est celui relatif à la remobilisation qui accueille donc des jeunes qui ont quitté l'école à 16 ans, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. C'est un module axé autour de la pratique et de l'expérimentation sur les métiers de l'environnement, avec la découverte, comme tu disais, des savoir-faire de base en collectif, la confiance en soi, la ponctualité. Il y a aussi donc la formation préqualifiante et la formation qualifiante où les jeunes, eux, passent un diplôme et répondent à des commandes concrètes des collectivités, des entreprises. Est-ce que tu peux nous en parler plus de ces formations des écoles être?
Oui, en fait, c'est vraiment ces trois briques, remobilisation, préqualification, qualification. Elles ont vraiment été pensées dans une idée de, à la fois de toucher des objectifs différents. Effectivement, comme tu l'as dit, la remobilisation, l'objectif, c'est, comme son nom l'indique, de remobiliser, d'accrocher autour de cette découverte, cette initiation. Donc ça peut durer, ça dépend des écoles, entre une semaine et un mois. Nous, on est plutôt parti sur des formats de 2 semaines à Marseille. La préqualification, c'est vraiment l'idée d'accompagner des jeunes beaucoup plus en profondeur sur la découverte d'un métier et sur l'acquisition de premiers savoir-faire.
Okay.
Donc on est moins... Alors on va continuer, en fait, toute la vie, on travaille sur les savoir-être. Mais c'est, là, l'idée, c'est aussi de travailler sur des premiers savoir-faire métiers techniques.
Donc là, sur des formats plus longs, de 6 à 9
de
mois.
Oui, de 3 mois.
De 3 mois,
de
okay.
3 mois. Nous, on l'a pensé sur un format de 3 mois pour l'instant. Et donc, on sera prêt à proposer 2 parcours de préqualification l'année prochaine, un au printemps, un à l'automne. Et l'idée, là, vraiment, c'est l'objectif, c'est que le jeune ou la jeune sorte de ce parcours avec un projet professionnel qui, okay. qui est construit. Ça peut être une entrée en formation qualifiante ou une entrée en emploi directement si y a matière à entrer en emploi directement.
Et vous les mettez ensuite directement en lien avec des structures, justement, ou vous,
oui.
vous faites le relais
sur tous les parcours, de toute façon, on fait le lien. Je peux donner des exemples concrets. Là, sur les 2 parcours qu'on a fait, il y a eu 2 jeunes qui ont une grosse accroche avec l'éco-construction et notamment les constructions en terre crue, puisque c'est ça qu'on a expérimenté.
D'accord.
Et là, moi, j'ai vraiment fait le lien pour déjà leur donner de l'information très concrète sur comment on peut se former, à quel endroit, dans quel organisme de formation, comment on peut candidater. Et ensuite, moi, je fais le lien avec l'organisme de formation pour bien expliquer que c'est des jeunes qu'on a accompagnés, qui ont fait partie de l'école-être. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les soutenir aussi dans leur projet.
De pérenniser leur projet sur le long terme,
Donc ça, c'est la préqualification. Et ensuite, la qualification, c'est l'idée de pouvoir avoir des parcours certifiants au sein des écoles-être. Mais c'est quelque chose qui met du temps à se construire et qui demande pas mal de réflexion pour bien travailler en bonne intelligence avec ce qui existe déjà sur le territoire et effectivement les besoins en recrutement et en emploi. Pour l'instant, on imagine plutôt pouvoir déployer des parcours certifiants d'ici 2025. Mais il y a plein d'écolettres qui ont déjà leur parcours certifiant. Certaines sur la menuiserie, d'autres sur l'éco-construction, d'autres sur la permaculture et le maraîchage. Voilà, ça dépend un peu du territoire et de la spécificité
de
l'école.
On y reviendra, Et donc, vous avez fait donc le choix de développer surtout le volet remobilisation. Est-ce que tu pourrais peut-être nous illustrer ça par le parcours de plusieurs jeunes que vous avez reçus? Donc, il y a eu un format en mars dernier et puis un autre format qui vient de se terminer en juin.
Ouais.
Peut-être tu peux nous parler. Ouais,
je peux donner plusieurs exemples parce que ça éclaire bien sur le type de jeunes et d'impact en fait que peut avoir une remobilisation qui reste quand même un parcours court. 2 semaines, ça reste assez modeste. Mais on a par exemple, je peux citer Anna qui elle a un profil plutôt diplômée, donc elle a un bac, elle a commencé des études de lettres et en fait elle a eu un profond mal-être à l'université dans le elle se projetait pas du tout en termes même d'emploi sur le cursus dans lequel elle était partie et elle avait vraiment besoin de trouver du sens et d'aller vers une activité plus manuelle et elle avait identifié le travail du bois en arrivant à l'écolettre et c'est là qu'elle a découvert qu'en fait on pouvait aujourd'hui se former en ouvrier en éco-construction et donc découvrir le bois, la terre, le chanvre, la paille et plein de techniques de construction. Et donc Anna, elle a décidé de candidater pour intégrer la formation OPEC, qu'on appelle ouvrier professionnel en éco-construction, au Gabion, qui est un centre de formation reconnu dans la région.
À Marseille ?
Non, malheureusement, ils ne sont pas à Marseille, mais ils ont une antenne à Mérargues, donc dans le nord des Bouches-du-Rhône. Et puis sinon, ils sont à Embrun et à Gap.
Oui, du côté de Gap. Oui.
Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, ça peut être parler de Jean. Jean, c'est un jeune qui était accompagné par le DAVEC. C'est un programme d'accompagnement et de retour à l'emploi qui est déployé par les apprentis d'Auteuil. Et Jean, il est porteur d'un handicap, il a des troubles de l'autisme et il s'est complètement épanoui dans ces 2 semaines de pratique. Lui, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose de ses mains. Et il a eu un gros coup de cœur pour la réparation vélo, alors qu'il n'avait jamais verbalisé ça avant. Et ces deux semaines de remobilisation ont débouché sur le fait qu'ils candidatent à un chantier d'insertion qui est porté par notre partenaire La Recyclerie Sportive. Et donc, il a intégré, il y a un mois, le chantier d'insertion de La Recyclerie Sportive. Donc, c'est une entrée en emploi, en insertion, pour ce jeune qui, pour l'instant, n'avait pas de projet professionnel, donc super positif.
Oui, qui ont trouvé du sens et une place dans cette société.
Voilà, et en tout cas, qui, sans vouloir dire qu'il sera toute sa vie réparateur vélo, parce que même lui, je pense qu'il ne le sait pas. Mais en tout cas, il y a une brique supplémentaire dans ce parcours qui est en construction. Et en tout cas, ça le fait avancer. Aujourd'hui, il a un contrat, il a un contrat de travail. Il a une rémunération et il va pouvoir aussi travailler sur son autonomie. Donc ça, c'est super chouette. Et puis peut-être un dernier exemple sur Caïs, qui voulait peut-être venir ce soir et puis finalement a pas pu se libérer. Caïs, qui est donc 15 ans et demi, donc qui est juste à la limite basse des jeunes qu'on accueille et qui, lui, a décroché du collège. Donc aujourd'hui, il n'a pas du tout de diplôme. Et ça fait des mois et des mois qu'il ne fait rien du tout.
Lui, vous a été orienté par quel organisme?
Lui, il a été rencontré par Impact Jeune, qui est aussi un programme des apprentis d'Auteuil, avec qui ont des boosters territoriaux. C'est un programme très intéressant qui travaille vraiment à l'échelle d'un quartier. Et donc, il avait rencontré la booster territoriale de La Rose, quelques jours avant le parcours de remobilisation. Et la grande question, l'objectif pour Caïs, c'était juste qu'il vienne pendant les deux semaines.
Ouais, oui, qu'il s'engage.
Voilà, qu'il vienne le premier jour et puis qu'il revienne le deuxième jour et ainsi de suite. Et Caïs, il a été malade un jour, mais en tout cas, il est venu tous les jours. Il était ravi. Et ça a été une très chouette expérience. Et je pense que voilà, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, de pouvoir s'appuyer sur ces deux semaines où il a participé à un groupe, où il a appris des choses, où il a testé, où il a été en capacité même de dire « ça m'a plu ». Ça m'a pas plu. Et ben, en fait, c'est déjà une grosse étape dans son parcours. Et voilà, on va travailler aussi avec la partenaire qui me l'avait orienté pour voir un peu qu'est-ce qui peut se construire pour lui pour la suite.
Ouais, j'ai l'impression que la pratique, l'aspect manuel, ça permet aussi de pouvoir verbaliser ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, comme tu dis, et puis de se sentir utile aussi, j'imagine.
Oui, et puis il y a un aspect ludique où effectivement on va réaliser quelque chose. Du coup, il y a aussi la fierté. Par exemple, là, les jeunes du dernier parcours, ils ont réalisé des nichoirs. Alors, c'est de la toute petite menuiserie. Mais en fait, je pense à Hugo qui était tellement fier de son nichoir où il avait fait un toit coulissant et il l'a ramené chez lui. Et c'était vraiment très valorisant de le voir... de le voir fier de lui.
Ouais,
alors
que dire,
justement, c'était un des objectifs pour lui de travailler sur la confiance en soi. Là, je me suis dit, en plein dans le mille.
Là, c'est gagné,
voilà. Ouais. Donc, c'est aussi ça, c'est pouvoir voir qu'en fait, on réalise quelque chose et qu'on peut en être fier parce que, en fait, c'est des choses qui sont là, quoi, et puis qui vont servir à quelque chose.
Et donc, il y a un certain nombre de métiers liés à la transition écologique que vous proposez. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est vrai qu'on ne les connaît pas forcément. Par exemple, ouvrier de paysage, réparateur de vélo, artisan en éco-construction. Il y en a en fait beaucoup. Est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu?
Ouais, dans les parcours de remobilisation, c'est vrai qu'on fait découvrir... on est un peu sur le un jour, un métier. Et du coup, on fait découvrir des métiers qui, de manière très large, on n'est pas restreint par un domaine. Mais oui, on peut faire découvrir alors un métier que personne ne connaît, c'est maître composteur. Alors peut-être, vous le connaissez. Mais,
ça fait penser à ce que font les alchimistes, peut-être.
Voilà, on a travaillé avec... on travaille avec une association et un maître composteur. Et puis, on avait travaillé sur le premier parcours aussi avec les alchimistes. Les jeunes étaient allés travailler une après-midi sur la plateforme.
Oui.
Mais il y a aussi effectivement ouvrier du génie écologique. Personne connaît le génie écologique, mais du coup ça va être plutôt comment on prend soin, on aménage et les espaces naturels, par exemple les digues de rivière, les dunes, le littoral, avec vraiment un enjeu de préservation de la biodiversité. On peut travailler sur la cyclo-logistique aussi, ça peut arriver. Donc comment on transporte les marchandises dans la ville à vélo et plus avec des camions.
Tout à vélo qu'on avait reçu aussi.
Tout en vélo,
tout
voilà.
Tout en vélo à
ouais, l'antenne. Tout en vélo, on a déjà fait effectivement un atelier avec eux. Et puis...
Diagnostiquer le réemploi des matériaux aussi, ouais.
Oui, alors ça, effectivement, c'est un thème qui nous intéresserait beaucoup. Mmh. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de partenaire avec lequel le faire. Mais c'est des choses qu'on va sûrement creuser, pour le coup, dans les années à venir. Je réfléchis. Il y a aussi tout ce qui va être autour des énergies renouvelables. Mmh. Et effectivement, la question du solaire photovoltaïque, des panneaux photovoltaïques qui est assez important et pour lequel il y a pas mal de débouchés dans la région. Donc ça, c'est un métier qu'on a pu leur faire découvrir sur un précédent parcours.
Et ça me fait penser à ce qu'on se disait en préparant l'émission, que chacune de ces écoles du réseau a une couleur différente, avec un cœur de métier propre à sa région. Par exemple, Haute-Garonne, on travaille la menuiserie. Dans l'Hérault, on travaille l'assainissement naturel et l'agriculture biologique. Dans les Deux-Sèvres, on travaille sur la rénovation écologique. Marseille, quelle est sa couleur? Quel est son cœur de métier? Tu me disais qu'il y en avait trois, je crois.
Oui. Alors, on a décidé, et ça, c'est un travail que j'ai mené l'année dernière, qu'on appelle exploration territoriale. C'est très important qu'avant de s'implanter sur un territoire ou avant de décider de porter le projet, puisque c'est des structures locales qui portent le projet être, qu'elles aient une bonne compréhension des enjeux en termes de qu'est-ce qui existe en termes de formation sur ces métiers sur le territoire. Et quels sont les besoins en fait en recrutement, quelles sont les entreprises présentes, etc. Si on va former des jeunes sur un métier qui en fait n'existe pratiquement pas dans la région,
sur un autre territoire, oui,
ça a peu d'intérêt pour des jeunes qui vont pas forcément avoir la capacité d'être mobiles. Donc j'ai fait ce travail, j'ai rencontré plus de 70 structures à Marseille pour justement identifier qu'est-ce qui était pertinent en termes de développement et de possibilités de recrutement, mais aussi qu'est-ce qui est pertinent pour le territoire. Mmh. À Marseille, c'est pas les mêmes choses que effectivement milieu rural. Et nous, on est parti sur et puis aussi quels sont les partenaires qui existent sur place avec qui on pourrait construire les choses, parce que à Paysan Urbain, on n'a pas toutes les compétences. Mmh. Donc on est parti effectivement sur on a appelé ça l'éco-gestion du paysage, mais du coup, c'est plus largement le lien au vivant et au végétal.
Oui, le besoin de végétal dans la ville.
Ouais, la question de la nature en ville, en fait, et de prendre soin de la nature aussi dans la ville. Le deuxième thème, ça va être tout ce qui est autour de la construction durable, avec une forte dimension autour de l'éco-construction. Mais on aimerait aussi s'intéresser aux énergies renouvelables en lien avec l'habitat, aux questions de rénovation énergétique, mais dans une démarche de transition écologique. Et puis la troisième thématique, c'est vraiment les mobilités décarbonées.
Je pense que
vous avez eu pas mal d'acteurs de ce champ aussi à votre micro. Comment en fait on fait une part plus grande aux mobilités douces dans la ville, puisque c'est un gros enjeu pour Marseille et pour les métropoles de manière générale. Et notamment, on voudrait travailler aussi pas mal sur le vélo. Voilà.
Marseille, tout un chantier,
c'est ça.
Il est 19h30, on va écouter la musique que tu as choisie pour cette pause musicale. Je te laisse la présenter.
Oui, et du coup, c'est une chanson que du coup Maël m'a fait découvrir. Donc Maël, c'est le jeune dont j'ai parlé en introduction, que j'ai accompagné pendant 3 mois en marge de rupture, avec qui j'ai vécu des choses très fortes. Parfois très difficile aussi, sur cette marge de rupture. Et c'est lui qui m'a fait découvrir cette chanson. Et je le verrais très bien être dans une écolettre sur son territoire. Donc peut-être un jour, il pourra suivre des parcours de l'écolettre.
Belle écoute. nous sommes de retour en deuxième partie d'émission avec Marine Dehas, qui est donc la coordinatrice de l'école Être à Marseille. Et en première partie, donc, nous avons parlé de ton parcours, de ces écoles Être, de ce qu'elles représentent. Et tu nous parlais donc en quoi Marseille est un vrai territoire d'opportunité pour la transition écologique sur plusieurs pans, notamment le besoin de végétal dans la ville, de repenser la mobilité de Marseille. Et puis, territoire avec aussi de grandes opportunités liées à la transition avec le solaire photovoltaïque. L'école Être, ça pose aussi la question du rapport au travail, le rapport du travail dans la société et le rapport au travail de demain. Quel est le rapport lié au travail par rapport à ces écoles Être, puisque vous accompagnez des jeunes donc de 16 à 25 ans, il y a aussi tout ce questionnement autour du travail, où il faut se faire plaisir, il faut qu'il y ait du sens. Quel est votre rapport à ça avec ces jeunes ?
Alors, il y a plein d'éléments de réponse sur cette question. Effectivement, peut-être la première réponse, c'est que ce qu'on voudrait transmettre à ces jeunes, et c'est ça qu'on essaye de faire pendant ces parcours, ouais, c'est de leur dire non seulement ce sont des métiers qu'on vous présente qui ont du sens, ouais, et on essaye de justement favoriser cette transmission de sens et d'impact par ces ateliers pratiques, mais aussi par la rencontre avec des professionnels qui sont vraiment passionnés par leur métier, mmh, et qui du coup sont à même aussi de parler de leur engagement et pourquoi ils ont choisi ce métier et comment ils le font et pourquoi ça a du sens pour eux. Donc ça, c'est très marquant aussi pour des jeunes qui entendent des professionnels leur parler de leur engagement professionnel. Donc ça, on parle beaucoup de ça, du sens qu'on met derrière ce travail, parce que c'est un travail qui va bénéficier à la société, qui va avoir moins d'impact négatif sur la planète, voire des impacts positifs pour l'environnement. Et en lien avec ça, de dire c'est aussi des secteurs qui recrutent déjà ou qui sont en développement. Et donc de répondre aussi à la problématique très concrète d'insertion professionnelle et du besoin, en fait, à un moment, de gagner sa vie.
Devenir autonome, l'autonomie aussi, oui.
Voilà, de devenir autonome. Et effectivement, un travail durable peut y contribuer. Mais nous, ce qu'on trouve vraiment important, c'est plutôt que ces parcours, ils leur permettent de questionner quel type de travail ils ont envie de faire et quel sens ils y mettent. Après, si au bout de 3 mois, un jeune nous dit « moi, j'ai envie de partir dans la clim classique comme on l'a fait aujourd'hui », nous, notre rôle, c'est aussi de l'accompagner là-dedans. Mm-hmm. Parce qu'en fait, si c'est ça son projet, l'objectif premier, c'est son insertion professionnelle. Et on lui a fait découvrir des choses, des enjeux, des projets, des professionnels. Et nous, notre objectif, c'est de l'accompagner. Ça, c'est une première chose. Après, effectivement, on essaye aussi de valoriser les partenaires, les professionnels avec qui on travaille, des gens, comme je le disais, qui sont passionnés, mais aussi des modèles de gouvernance un peu différents. Effectivement, quand je leur parle de la cyclo-logistique, je vais plutôt leur parler des structures qui sont en train de se développer d'émerger à Marseille. Mmh. On a parlé de Tout à vélo, ça peut être aussi Agile en ville. Il y a la Courserie maintenant qui existe.
Les alchimistes. Qui sont,
alors, les alchimistes, ils travaillent avec Tout à vélo.
Oui. On s'en est rendu compte. Ouais.
Et effectivement, comment on travaille aussi avec des partenaires qui montrent d'autres modèles de gouvernance au travail. Par exemple, des sociétés coopératives, des associations, des artisans qui vont bosser à leur compte, mais qui bossent en collectif, des artisans qui interviennent portés par des tiers-lieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est important pour nous de leur faire voir qu'il y a d'autres modèles d'organisation du travail qui existent. Mmh. Et en même temps, on a à cœur de garder un lien avec le monde du travail actuel, bien sûr, et donc de leur faire rencontrer des entreprises qui recrutent sur le territoire, mais qui parfois ont des politiques et salariales et en termes de conditions de travail qui sont très bonnes.
Est-ce que vous avez aussi à souhait de développer le rapport à l'entrepreneuriat, ou c'est un public qui est peut-être trop jeune par rapport à ça, ou vous avez plus envie de les, de les structurer avec des institutions, avec des associations justement, où l'entrepreneuriat aussi est valorisé?
Oui, bah c'est une bonne question, puisque c'est une question qu'on se pose de plus en plus. Alors, pas forcément sur des parcours de remobilisation, sauf pour un ou deux profils à la marge, mais effectivement, des jeunes de 18 ans qui sont en décrochage scolaire, on ne va pas leur parler d'entrepreneuriat, parce qu'en fait, il y a pas mal d'étapes en fait, à réfléchir avant ça. Par contre, pour des jeunes qui suivent une formation qualifiante, comme nous, on va former... faire découvrir et former des jeunes sur des métiers manuels, c'est souvent en fait des métiers d'artisans. Et effectivement, il y a un enjeu, et c'est ce qu'on leur dit, à se former en formation certifiante. Mm-hmm. Il y a aussi, ensuite un enjeu à monter en compétences par le travail. Parce qu'en fait, si on monte sa boîte en sortie de formation, à part si on est très doué et qu'on a 20 ans d'expérience par ailleurs, mm-hmm. il y a quand même de forts risques que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas évident de monter son entreprise. Ouais. Et puis, parce qu'en fait, on est sur des métiers où 9 mois de formation, c'est bien, mais ça ne suffit pas en fait, pour être vraiment autonome, sûr de soi. Et donc, souvent, les jeunes, ils vont partir en salariat et peut-être plusieurs années après, aller sur de l'entrepreneuriat. Donc, on réfléchit au sein du réseau aujourd'hui à comment on pourrait accompagner des jeunes spécifiquement sur ces métiers manuels de la transition écologique. Et voilà, c'est aussi pour ça que le réseau des écoles Être est présent au Transforama, qui est un des carrefours de l'entrepreneuriat
marseillais.
À la Friche, exactement, juste au-dessus de nous.
Mais je trouve que c'est super intéressant ça, d'éveiller les imaginaires aussi de ces jeunes, que tout est possible, qu'eux aussi, ils ont la place pour développer des projets personnels ou en tout cas de s'imaginer ailleurs. Et donc la transition écologique, en lien forcément avec la transition de vie dans ces écoles Être, apprendre, découvrir, s'approprier avec le passage par le concret pour comprendre ce qu'on fait, avec un autre rapport aussi au temps. J'ai l'impression qu'on prend le temps, ce qui n'est pas forcément le cas dans nos sociétés ou dans les boulots qu'on fait, qu'on peut faire. Travailler à son rythme, avec une autonomie aussi, avec le collectif. Apprendre aussi à faire seul. Donc liberté dans un cadre avec des règles, la possibilité aussi de choisir ce qui nous plaît, et puis à quelle place je suis, qu'est-ce que je peux faire avec des outils variés, sentir utile, donner du sens à son travail, finalement devenir soi. Pour toi, en quoi l'apprentissage par le faire, justement par le manuel et le lien à la nature, le fait de se reconnecter à ce vivant qui est tellement important dans ces enjeux écologiques, permet justement à ces jeunes de trouver leur juste place?
Alors, je pense qu'effectivement, en tout cas sur le public marseillais qu'on reçoit, il y a beaucoup de jeunes qui sont en fait, de par leur parcours et de par leur lieu de vie, qui sont très déconnectés de la nature, qui ont parfois aussi enfin, voilà, c'est comme s'ils étaient étrangers à cette nature. Et du coup, de reconnecter, je pense que ça peut apaiser certains. Par exemple, de se retrouver perché à 15 mètres de haut avec Lionel, qui est arboriste et lagueur, qui leur parle d'histoires incroyables sur le lien entre les hommes et les arbres. Et je pense que, en fait, ça fait aussi écho à plein de choses qu'ils ont rencontrées dans leur vie personnelle, des histoires, par exemple, la maison de la grand-mère, des histoires, des parcours.
D'une certaine manière.
Voilà, et aussi dans leur parcours scolaire, parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont dit « Ah, mais ça, oui, on en avait parlé à l'école sur certains ateliers », ce qui est assez rassurant. Ouais. Donc voilà, de reconnecter un peu... avec la nature, ça permet aussi cet apaisement. Et sur le volet manuel, effectivement, souvent on se rend compte que ça canalise aussi pas mal de mal-être ou d'impatience. Et il y a vraiment cette idée de réaliser quelque chose et d'être en action, en fait.
Dans l'action, mais peut-être moins dans l'instantanéité aussi, parce que fabriquer quelque chose prend du temps. On est dans une société où on tweet, on passe à autre chose très rapidement. Là, on se rend compte que le temps, ça a du sens aussi.
Ouais. Et effectivement, ça a du temps et ça a du sens, pardon. Et c'est ça qu'on veut aussi transmettre aux jeunes. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu orientés malgré eux vers certaines filières. parce que tu es un garçon en échec scolaire, bah, tu iras dans le BTP, parce que tu es une fille pas très bonne à l'école, ben, c'est le service à la petite enfance. Et peut-être que quand c'est un projet construit, c'est formidable, parce qu'en fait, il y a des gros besoins dans ces domaines-là. Mais quand c'est un projet subi, enfin, quand c'est subi, donc c'est plus un projet, là, ça devient vraiment problématique parce qu'en fait, c'est le début... Enfin, on continue, en fait, la chaîne du décrochage et de l'absence de sens total. Donc, c'est ça, pour nous, qui est important. C'est vraiment de travailler aussi par cet apprentissage par la pratique à y mettre du sens et surtout à décider... Et à se dire, ça, c'est fait pour moi, ça, c'est pas fait pour moi. Voilà. Et puis, il y a aussi, je reviens sur le profil des jeunes qu'on reçoit. C'est quand même des jeunes qui ont besoin de bouger, d'être dans l'action. Et donc, le fait de passer par des activités manuelles et pratiques, ça permet de canaliser cette énergie tout en étant dans quelque chose de positif. Et puis, pardon, j'ai oublié quelque chose, non, qui est vraiment important. Je pense que c'est aussi toute la réflexion qu'ont les écolettres sur la dissociation très forte dans nos sociétés entre le manuel et l'intellectuel. D'un côté, on a des gens qui vont élaborer, penser, analyser,
conceptualiser,
et qui, par ailleurs, sont vachement mieux payés que ceux qui font. On voit qu'aujourd'hui, même des jeunes qui sont très diplômés sont en souffrance par ce manque.
Ils reviennent souvent à des reconversions pro vers des métiers.
Et reviennent, effectivement. Nous, on a beaucoup de jeunes, de personnes qui nous sollicitent dans les écolettres sur des projets de reconversion. Donc, finalement, c'est moins notre public cible, mais ça montre bien aussi cet enjeu sociétal. Et du coup, c'est ça aussi qu'on veut valoriser dans les écolettes, c'est comment on réconcilie à la fois en fait, savoir faire des choses de ses mains, être autonome aussi pour construire quelque chose, une maison, pour savoir s'occuper d'un jardin, se nourrir, prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin du vivant. Mais avec tout un enjeu aussi de sensibilisation pour comprendre pourquoi on fait les choses, comment on les fait et qu'est-ce que ça peut changer de les faire plutôt de cette manière-là qu'une autre manière, quoi.
Et sur ces jeunes qui sont assez jeunes finalement, 16 ans à 25 ans, est-ce qu'il y a un lien avec les parents sur l'éducation, est-ce que vous avez un lien avec ces familles ?
Alors, ça dépend des jeunes. Il y a des jeunes où moi, je n'ai pas eu de contact avec les parents. Et après, il y a des jeunes avec qui, de toute façon, on a un contact parce que c'est des mineurs. Donc, il faut forcément, à un moment, avoir une autorisation parentale. Et puis, en fait, les parents, c'est souvent, ou la famille, c'est souvent à la fois un socle et en même temps, pour plein de jeunes, un endroit de difficulté. Donc, c'est intéressant aussi de comprendre ce lien sur des parcours de 2 semaines. C'est un peu rapide pour pouvoir creuser ça. J'espère que sur des formats plus longs, il y aura de toute façon du temps d'accompagnement socio-professionnel. Et donc, forcément, on sera amené à travailler avec les familles. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en mars, par exemple, on avait fait une petite célébration de fin de parcours où les jeunes avaient fait une espèce d'exposition de photos sur ce qu'ils avaient fait pendant les 2 semaines. Et ils sont plusieurs à avoir invité leurs parents. Et c'était très valorisant.
Les frères aussi.
Voilà, c'était des amis. Certains ont invité plutôt la personne qui les a envoyés, donc l'association avec laquelle ils étaient accompagnés. Et il y en a quand même 4 qui sont... 4 ou 5 qui avaient leurs parents en présent. Donc voilà, c'était très chouette aussi de voir les familles.
Oui, c'est valorisant aussi pour eux, en fin de parcours, j'imagine, de pouvoir présenter ce qu'on a fait, où on en est.
Ouais. Et puis, mine de rien, d'avoir des jeunes qui, en fait, sont que dans des cycles d'échecs, de décrochage, parfois de délinquance. Et ben là, hop, ils arrivent sur un nouveau lieu. Moi, j'ai quelques informations du prescripteur. Mais en fait, c'est un peu carte blanche, on va dire. Et donc, nous, on les prend comme ils arrivent. Et en fait, il y a des jeunes où... Il y a eu des jeunes où je sais qu'ils ont fait pas mal de garde à vue. Voilà. Mais les 2 semaines ont été royales. Enfin, voilà, avec un jeune qui était ponctuel, poli, qui a participé. Et moi, je fais un retour extrêmement positif aux parents, aux prescripteurs. Et du coup, ça valorise aussi le jeune auprès d'endroits où il y a sûrement des visions plus partagées.
Et est-ce que le lieu de, enfin, où est située cette école s'inscrit aussi dans une vie de quartier? Comment elle se positionne, l'école Être? Elle est dans le 13e, à côté du, enfin, au sein du paysan urbain. Comment elle s'intègre dans la vie de quartier à Marseille, dans cet arrondissement en tout cas?
Alors, au niveau de l'école Être, c'est en construction. Le paysan urbain, ça fait depuis bientôt 5 ans que, que l'asso est là-bas. Donc, il y a tout un lien qui a été créé avec, avec les acteurs sociaux sur place du quartier et ça continue à se construire. Donc, par exemple, le paysan urbain, il intervient dans un collège, alors plutôt dans le 14e arrondissement, mais qui est pas loin du cloître, sur toute la... repenser les espaces extérieurs de ce collège. Et donc, c'est un parc qui, aujourd'hui, est ouvert aux habitants. Et donc, les équipes du paysan urbain, elles rencontrent les habitants du quartier sur ce projet et elles les invitent aussi à venir chez nous sur le jardin.
Parce qu'il est ouvert au public, cet endroit?
Il est ouvert aux bénévoles, je crois, le vendredi après-midi et le mercredi après-midi. Voilà. Et effectivement, il peut y avoir aussi, on travaille avec des associations comme ATD Carmonde qui vont venir avec des groupes d'enfants qui vivent en bidonville et qui vont venir le temps d'une après-midi vraiment travailler au jardin. La dernière fois, on travaillait avec un centre social qui est dans le quartier, qui est venu faire du jardin le matin et de la grimpe avec notre partenaire Lionel l'après-midi. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir le lieu aussi aux acteurs locaux. Et puis, peut-être à moyen terme aussi, de travailler avec des artisans et des entreprises du quartier, du 13-14, et puis de tout Marseille, évidemment. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait sur le long cours, ce travail de partenariat qui est essentiel et qui prend beaucoup de temps.
Oui, parce que comme tu me disais, on arrive en fin d'émission, mais je voudrais quand même un peu l'aborder. Cette école Être à Marseille, elle existe depuis quelques mois, donc vous êtes un peu en début de projet. Vous avez encore des besoins, notamment matériels, financiers, la volonté de développer encore des partenariats et puis donner de la visibilité à ce projet.
Ouais.
Quelle est l'actualité pour les prochains mois d'ailleurs? Quelles sont les prochaines sessions de formation, si on peut faire un appel
Oui, et ça tombe bien, puisque en plus on vient de caler les dates. Et effectivement, nous, on est toujours en recherche de jeunes. Aujourd'hui, on a réussi à avoir 7 jeunes sur chaque parcours, mais on pourrait accueillir jusqu'à 9 sur chaque parcours. Et donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, vous avez entre 16 et 25 ans, ou que vous avez des jeunes dans votre entourage, dans vos structures auxquelles vous pensez. On aura 2 parcours de remobilisation, donc de 2 semaines. Le premier du 18 au 29 septembre, donc les 2 dernières semaines de septembre, et le deuxième du 20 novembre au 1er décembre, donc les 2 dernières semaines de novembre. Donc ça, c'est pour 2023. Et en 2024, comme je le disais, on prévoit 3 parcours de remobilisation et 2 parcours de préqualification, un au printemps et un à l'automne. Donc là, vraiment sur un parcours de 3 mois où ils seront vraiment stagiaires de l'école Être pendant 3 mois avec nous.
Et comment ils peuvent candidater ces jeunes pour participer à ces formations? C'est à partir du site internet, j'imagine.
Voilà, vous pouvez trouver l'info sur le site internet du réseau des écoles Être. Donc c'est école-transition.eu. Ça, c'est le site internet. Et puis, en contactant aussi le paysan urbain de Marseille, et en fait, il suffit de prendre contact avec moi, Marine, donc coordinatrice de l'école Être, justement, pour échanger. Ça peut être échanger par téléphone, ça peut être passé sur place.
Oui, si on a des questions.
Voilà, il y a plein de jeunes avec lesquels j'ai échangé qui ne sont pas encore allés sur un parcours, mais peut-être en septembre. Nous, on est tout à fait ouverts à échanger. Ça peut être avec des parents, ça peut être avec des structures qui accompagnent des jeunes. Sans souci.
Et donc, on rappelle, donc, c'est une école gratuite, puisque c'est des écoles qui sont principalement financées par les régions.
Alors oui, c'est complètement pris en charge, effectivement. Avec pour l'instant beaucoup de financement privé, mais on espère qu'à terme, justement, il y aura du financement de la région Sud.
Eh bien, écoute, on arrive en fin d'émission, Marine. Je te remercie beaucoup. C'était un grand plaisir de te recevoir à l'antenne.
Pareillement.
On vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine, pour découvrir de nouvelles structures, de nouveaux invités. Prenez soin de vous.